Chapitre 17. La mâchoire du dragon des marais était incroyablement puissante. À la lumière du milieu d'après-midi, Lila se battait contre le monstre qui lui opposait une résistance inattendue. Sur son bras, elle sentait la pression de crocs qui risquait de finir par lui transpercer la peau. Pour ne rien arranger, la puanteur qui montait de la gueule du reptile menaçait de lui retourner l'estomac. Elle banda tous ses muscles pour repousser son agresseur. Entêté, le dragon planta ses griffes arrière dans la boue, mais la moracite parvint à le faire reculer. Furieuse, la créature zébra l'air de sa queue couverte d'écailles. En force brute, les deux adversaires se valaient, mais le dragon avait l'intelligence d'un morceau de bois alors que Lila était une moracite. Mobilisant toutes ses forces, elle poussa, parvint à dégager son bras, recula et fit face à la créature. Un instant décontenancée, celle-ci se prépara à bondir, la gueule grande ouverte. Plus vive, Lila plongea en avant, couteau au poing. Son bras s'enfonça entre les rangées de crocs du dragon et sa lame lui traversa l'arrière de la gorge, puis se planta dans sa moelle épinière et la déchiqueta. Le reptile géant déjà mort continua à se débattre. Crevé ou non, il resterait dangereux tant que son système nerveux réagirait encore. Le souffle court, Lila retira son bras de la gueule béante et roula en arrière sur le dos dans les herbes gorgées d'eau. Sur un dernier soupir pestilentiel, le monstre mourut enfin. Couverte de sang et de limon, Lila se releva, puis flanqua un coup de pied à la créature qui bascula dans l'eau glauque. Emporté par des courants invisibles, le cadavre dériva loin de la moracite. Mais des bruits d'éclaboussures et des ondulations dans la gadoue lui apprirent que d'autres monstres ne tarderaient pas. Friands de chair humaine, ces prédateurs ne résisteraient pourtant pas au plaisir de dévorer la charogne d'un semblable. Dans les marécages du fleuve Chasse-Corbeau, tous les quartiers de viande se valaient. Lila aurait aimé se reposer et se restaurer, mais elle n'avait pas le temps. Le fichu dragon l'ayant déjà retardée, elle courut dans la gadoue et souleva des gerbes d'eau tout en écrabouillant les herbes hautes et les roseaux. Sans ralentir, elle se penchait pour passer sous les lianes tendues sur son chemin comme des tentacules végétaux. Son combat contre le dragon avait fait un boucan d'enfer. Si des éclaireurs ennemis se montraient, autant ne plus être là, même si elle se savait capable de les massacrer tous. L'heure venue, elle ne se retiendrait pas, mais pour le moment, mieux valait faire profil bas. Elle continua à descendre le fleuve au pas de course. Les trois galères étaient déjà hors de vue, et elle allait devoir les rattraper. Par bonheur, elle jetait l'ancre le soir pour échapper aux dangers de la navigation nocturne. Si les prédateurs des marécages n'inquiétaient pas beaucoup Lila, l'idée de perdre Bannon la terrorisait. Des monstres, elle en avait affronté un paquet dans l'arène. Plus jeune, lors de sa formation de moracite, elle s'était illustrée en écrasant adversaire après adversaire. En récompense, elle avait reçu les runes protectrices gravées au fer sur sa peau. En d'autres termes, combattre lui était devenu naturel, comme respirer ou manger. Toute seule, elle avait tué un loup à pic et un sanglier géant. Pour vaincre, un simple couteau lui avait suffi. Dans le dos, elle gardait encore les cicatrices de son duel contre un ours de combat. Même avec les chairs à vif, elle avait fini par gagner. Une fois devenue moracite, elle avait commencé à entraîner des gladiateurs. Avide de gloire, certains lui avaient été reconnaissants de ses efforts, et d'autres lui en voulaient, au contraire. Lila n'appréciait ni les premiers ni les seconds. Son travail, c'était de former de grands combattants, qu'ils aiment ça ou non. Et elle était très fière de ce qu'elle avait accompli. Si Bannon comptait parmi ses élèves les plus récalcitrants, elle était très satisfaite du résultat final. Il promettait beaucoup. Voilà pourquoi elle le protégeait, lui ouvrait sa couche et éprouvait pour lui des sentiments incongrus. Contrairement à tous les esclaves qu'elle avait connus à Ildakar, Bannon était honnête et sérieux. En outre, son enthousiasme lui conférait une forme de naïveté qui semblait parfois ridicule. Sous cette façade se cachait pourtant une noirceur suffisante pour qu'il devienne un jour un parfait combattant et un tueur d'élite. Pendant longtemps, la tâche de Lila avait consisté à former des gladiateurs pour divertir les nobles d'Ildakar. Désormais, Bannon et elle viseraient des objectifs plus ambitieux, mais avant tout, elle devait le libérer. Elle avait toujours l'épée du jeune homme, une arme amplement suffisante pour ses projets. À l'entraînement, Bannon avait utilisé solide contre elle, donc elle savait que c'était une lame robuste et tranchante. Du coup, elle s'en servit pour couper une liane hérissée d'épines qui lui barrait le passage. Au lacet suivant du fleuve, Elle déboula dans une clairière au sol boueux. Devant elle, les galères semblaient minuscules, mais elle connaissait leur destination. Sans se laisser décourager par la distance, elle continua à courir en chassant les insectes qui fondaient sur ses joues, attirés par l'odeur de sa sueur et la perspective de lui pomper son sang. Les dangers des marécages étaient secondaires. Résolue à rattraper les galères, elle lutterait jusqu'au bout et ses ennemis ne lui échapperaient pas. Calvaire et ses pillards descendaient le fleuve, et un village se dressait sur leur itinéraire. Des victimes et un butin, c'était trop tentant pour que des norokaïs passent leur chemin. Lila courut tout l'après-midi et continua après le coucher du soleil. Devant elle, dans la pénombre, elle apercevait des huttes en feu, une jetée dévastée et des cadavres éparpillés un peu partout. Malgré le bourdonnement incessant du marécage, elle captait des cris de guerre et des hurlements de douleur. Elle accéléra le rythme et quand elle arriva au village, il restait très peu de survivants. Les galères mouillant dans un bras du fleuve, les norokaïs continuaient à débarquer de leurs canots avides de sang et de pillage. Alors qu'elle approchait, sûre d'arriver trop tard, Lila repassa son plan en revue. 20 huttes faites de roseaux et de bois de saule se dressaient au bord des quais. Plus loin, au milieu des arbres, on avait installé d'autres habitations. Les canoës et les barques des pêcheurs, la coque éventrée, finissaient de sombrer ou de s'échouer sur la rive. Sur les hauteurs, les fumoirs et les gardes-mangers brûlaient aussi. La mise à sac durait depuis des heures et n'était pas près de finir. Sous le couvert des broussailles, Lila approcha prudemment. Autour d'elle, les rugissements des pillards et les cris de leurs proies montaient de toutes parts. Plusieurs huttes éloignées de la berge étaient en flammes et on entendait hurler leurs habitants coincés à l'intérieur. Courant le long de la ligne d'incendie, Lila passa devant des cadavres taillés en pièces. Pour l'essentiel, des vieilles femmes et des enfants jugés inutiles. Les adultes en forme, au contraire, seraient embarqués sur les galères pour être vendus comme esclaves. Bien à l'écart de l'eau, une hutte brûlait et des cris d'enfants en montaient. Pour interdire toute fuite, les norokaïs avaient renversé un chariot avant de le pousser contre la porte. Devant cette hutte, un villageois armé d'un crochet de marin gisait dans une flaque de sang. En un clin d'œil, Lila reconstitua le drame. Un père avait tenté de défendre ses enfants, mais les norokaïs l'avaient tué, enfermant ensuite les pauvres gosses dans une hutte sans fenêtre très facile à condamner. En commettant ces atrocités, les maudits pillards devaient rire à gorge déployée. Les cris se firent plus forts. Partout dans le village, des gens appelaient au secours, mais Lila ne pourrait pas les sauver tous. Cela dit, elle se souvint que Bannon l'avait exhortée à secourir les gens dès qu'elle en aurait la possibilité. Sans hésiter, elle se jeta sur le chariot. À coups d'épaule et de pied, elle le fit bouger assez pour pouvoir ouvrir la porte. Derrière, trois fillettes couvertes de suie, les yeux rouges sang, toussaient comme des perdues. Alors que l'air frais chassait en partie la fumée, la plus âgée sortit et riva les yeux sur la dépouille de son père. Les prenant par le bras, Lila tira les deux autres gamines de leur prison, puis elle poussa les trois dans la direction opposée aux flammes. « La forêt !» lança-t-elle. « Cachez-vous entre les arbres !» En passant, elle avait aperçu des silhouettes furtives dans ces bois. « Vous ne serez pas seul. Surtout, restez avec des adultes !» Avant que les trois miraculés puissent détaler, un grand norokaï sortit d'un entrepôt non loin de là. Dès qu'il vit les gamines et Lila, un sourire fendit son visage hideux.
« Filez !»
cria la Morassite. Les petites coururent tandis qu'elles se tournaient pour affronter le pillard. Dégainant solide, elle chargea, surprenant ce crétin arrogant. Par réflexe, sa bouche démesurée dessina un rictus méprisant, mais un coup sec et précis lui ouvrit le ventre avant qu'il ait compris ce qui lui arrivait. Baissant les yeux, ébahi, il regarda ses viscères glisser le long de ses jambes. Lila aurait adoré le laisser crever lentement, mais il braillait comme un goret. Presque distraitement, elle le décapita. Sauver ses trois gosses était louable, mais elle ne devait pas en rester là. Quatre canots retournaient à présent vers les galères au mouillage. Deux étaient chargés de butin et deux autres de captifs. Assoiffée de sang de norokaï, Lila serra plus fort la poignée de son épée. Heureusement pour elle, quelques pillards s'attardaient pour mettre à sac et incendier les dernières habitations. Ils voulaient s'amuser, eh bien elle allait jouer avec eux. Un esclavagiste sadique harcelait un pauvre chien attaché à un poteau. Quand ce divertissement l'eut lassé, il décapita simplement l'animal. Plus loin, deux tueurs à gueule de reptile violaient une femme déjà plus toute jeune. Aveuglée par la rage, Lila jeta la prudence aux orties et fonça sur les salopards. Après en avoir fini avec la malheureuse, un des deux norokais grogna de dépit parce qu'elle ne bougeait plus. Agacé, il la poignarda au cœur, dégagea sa lame, puis remonta son pantalon. En mourant, la villageoise exhala comme un soupir de soulagement. Enfin, elle en avait terminé avec son calvaire. Arrivée trop tard, Lila n'avait rien pu empêcher. Histoire d'économiser son souffle, elle ne lança pas de cri de guerre, mais fondit sur le norokai, solide, pointé. Après ce qu'il venait de faire, elle ne pouvait pas laisser vivre un tel fumier. Quand l'esclavagiste se retourna, Lila lui trancha la gorge avec tant d'énergie qu'elle faillit le décapiter. Foudroyé, il s'écroula sur sa victime. Son complice, qui avait tenu la pauvre femme, cria de surprise, puis il recula, saisit sa hache de guerre et se prépara à combattre. Mais il avait ouvert son pantalon, pressé que ce soit son tour, et le vêtement s'enroula autour de ses jambes. Quand il tituba, Lila procéda avec le calme d'une professionnelle. Sans trahir d'émotion, elle éventra le type, lui infligeant le même sort qu'au salaud devant la hutte en feu. En s'écroulant, le moribond tendit une main vers elle. D'un coup de pied, elle le fit basculer en arrière.
« Je vais te laisser crever à ton rythme, mon gars !» siffla-t-elle.
Les huttes continuaient à brûler. Des cris montaient de la plus proche. Accourant, Lila débloqua la porte et fit sortir des villageois. Tandis qu'ils titubaient, toussant et pleurant, elle reprit son chemin. En avançant dans le village, elle prit conscience de l'ampleur du massacre. Devant un fumoir à poissons, un vieil homme gisait sur le sol, le flanc transpercé par une lance. Quand Lila s'accroupit près de lui, une lueur d'espoir passa dans son regard. Mais une blessure pareille, comme on l'apprenait en combattant dans l'arène, ne pardonnait pas. Sondant la forêt, Lila vit que d'autres fugitifs s'y enfonçaient en quête de sécurité. À l'évidence, il y avait plus de survivants que la Morassite l'aurait cru.
« Les Norokai !»
gémit le villageois en levant une main. Lila la lui serra puisque c'était ce qu'il semblait vouloir d'elle.
« Je la connais, » dit-elle, « et j'en tuerai jusqu'à mon dernier souffle. »
Une décision prise depuis un moment, mais c'était ce que l'homme avait besoin d'entendre.
« Tuez-les tous !»
souffla-t-il avant de mourir.
« C'est juré !»
fit Lila. Puis elle reprit son chemin et s'arrêta devant un canot arrimé à un embarcadère encore intact. À la proue, un norokai semblait impatient de partir. Les autres embarcations étaient toutes sur le chemin du retour.
« Dépêchez-vous »
lança-t-il à ses compagnons qui s'attardaient dans le village en feu.
« Le roi calvaire ne nous attendra pas et je ne veux pas rester coincé à terre avec cette vermine !»
Quand Lila émergea de l'écran de fumée, le colosse leva sur elle des yeux stupéfiés. Même si elle serrait une épée et portait un couteau sur la hanche, le norokai parut croire que c'était son jour de chance. Sautant sur l'embarcadère, il approcha de sa belle.
« Ce sont les copains qui t'envoient ?»«
Non, c'est le gardien, et je vais t'expédier chez lui. »
Son arme tenue à deux mains, Lila frappa de taille. L'esclavagiste esquiva, échappant au pire, mais il perdit l'équilibre et tomba dans le fleuve. En jurant comme un charretier, il se hissa sur l'embarcadère. Sans se démonter, Lila abattit sa lame et lui trancha les deux mains au niveau des poignets. Pour mettre un terme à ses beuglements, elle l'égorgea d'un coup sec. Retombant dans l'eau, il fut vite emporté par le courant. Dans le bras du fleuve, les trois galères levaient déjà l'ancre. Voir que Calvaire filait en abandonnant une partie de ses hommes, mais avec tout le butin, n'étonna pas du tout Lila. Sur son embarcadère, elle regarda les galères s'éloigner. Puis elle se souvint de la promesse faite au moribond. Non contente de libérer Banon, elle tuerait tous les Norokai. Parole de Morassite.